Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, journaliste à Eurosport, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. La Ligue 1 d'abord, la course pour le maintien a peut-être livré une partie de son verdict, la course pour la Ligue des Champions aussi, mais on va surtout se concentrer sur cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund, avec notamment un focus sur Kylian Mbappé. Ce match, on va aussi le voir vu d'Allemagne avec David Lortolari qui va nous parler de Dortmund et qui va aussi nous toucher un mot de la succession de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich, une succession qui tarde à se dessiner. Qui veut du banc du Bayern? On va lui poser la question. Un tour en Espagne ensuite, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en Liga ce week-end. Gérone sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Le Real Madrid est de nouveau champion. On balaye l'actu de la Liga avec Anna Caro. Et puis on terminera évidemment avec Philippe Auclair en Angleterre. Course au titre, course à la Ligue des Champions et focus sur Phil Foden, élu footballeur de l'année. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Philippe Auclair qui vous dira pour qui il a voté. Voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même, vous pouvez retrouver Tour d'Europe sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club, et puis les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. Allez, on commence ce Tour d'Europe en Ligue 1, notre championnat de France qu'on adore, et on rejoint Elton Mokolo, notre spécialiste du football français. Salut Elton. On a vécu une 32e journée particulière dans sa programmation, puisqu'on ne joue plus le dimanche 5 mai, hein, en hommage, en mémoire en tout cas, au drame de Furiani. Il y a aussi des matchs qui ont été décalés pour les équipes européennes. Mais on a quand même eu des enseignements, Elton, dans cette 32e journée, en tout cas dans ce début de 32e journée, à commencer par la lutte pour le maintien. On a l'impression que pour Metz et Lorient, ça commence à sentir très mauvais, Elton.
Salut Arthur. Alors déjà, il faut saluer l'initiative par rapport au 5 mai. C'est très important d'avoir de la mémoire par rapport à la catastrophe qui est passée. Donc c'est vrai que c'était une initiative à encourager, à appuyer. Maintenant, pour revenir pour le maintien, c'est vrai que c'est peut-être une journée bascule quand on parle de Metz et quand on parle de Lorient, deux équipes qui ont été impactées par des faits de jeu indépendants de leur volonté, mais ça aboutit à la même chose, ça aboutit à deux défaites qui sont très douloureuses, autant pour Lorient, mais aussi pour Metz. Metz qui, à un moment donné, menait contre Rennes, et on aurait pu penser qu'à domicile, ils allaient faire la différence contre une équipe rennaise qui est sur une fin de saison difficile. Bon, Metz est sur une fin de saison encore plus difficile parce qu'ils sont candidats au maintien. Ils risquent de descendre, mais pour autant, là, c'est vrai que ces deux défaites-là ont très très mal de la perspective du maintien.
Ce qui fait mal, et tu l'as rapidement évoqué, c'est des décisions contraires. Il y a ce but refusé à Lorient. Contre Lens, on a toujours du mal à comprendre pourquoi le but a été refusé. Il y a ce pénalty pour une faute assez légère sur Kalimuendo sifflé contre Metz. Cette exclusion, franchement, qu'on peut qualifier de ridicule de Georges Mikotadze pour presque rien. Est-ce que tu as l'impression que les petits clubs sont lésés? Est-ce que tu as l'impression que le problème est plus global que ça?
Le problème il est plus global que ça parce que là, ça a beaucoup plus de caisses de résonance parce qu'il est question de 32e journée, il est question de clubs qui sont candidat au maintien, mais j'ai déjà vu des actions similaires, enfin peut-être pas similaires, mais des actions où l'arbitre n'a peut-être pas pris la bonne décision. Donc moi, je pense que c'est un problème global. J'ai notamment référence au carton rouge de Mikotadze, où là, on voit vraiment qu'il y a une problématique entre le fait qu'il y a la VAR qui prend la décision, il y a l'arbitre qui prend une décision, et donc en fait, on est limite sur une bataille d'ego, on est sur une guerre d'ego même, où chacun ne veut pas se déjuger, ça aboutit à un carton rouge qui est ridicule et qui peut avoir un impact terrible pour Metz. Parce que j'ai même envie de penser pour Metz que le pire, c'était peut-être pas la défaite contre Rennes hier, c'est surtout le fait que Mikotadze pourrait louper un voire deux matchs. Et là, et on sait qu'il reste deux matchs en Ligue 1. On sait que Metz est sur un calendrier qui est compliqué. Donc, ça a un impact, ça pourra avoir un impact très, très dommageable.
Bon, on va remonter un petit peu, même beaucoup, au classement pour aller jusqu'à la course au podium. Énorme pas fait dans cette optique-là par l'AS Monaco. On rappelle que lundi soir, Lille reçoit Lyon, donc match très important pour Lille aussi. Mais Monaco, quasiment assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions et surtout presque assuré désormais de finir sur le podium. Elton, est-ce que c'est logique pour toi?
C'est un week-end très positif pour l'AS Monaco. Alors oui, ils affrontaient Clermont qui était Lanterne Rouge, mais enfin, il fallait gagner à domicile. Et tout ça couplé au match nul de Brest face à Nantes, ça donne 4 points d'avance par rapport à Brest. Il reste 2 journées, donc on peut raisonnablement penser que Monaco peut faire le travail dès samedi prochain et se qualifier en Ligue des Champions de manière directe pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Je pense que ce serait une récompense pour l'AS Monaco parce que en dépit d'une saison où il y a eu des hauts et des bas, parce qu'à un moment donné, au cœur de l'hiver, ils étaient sortis du podium, je pense que c'est une récompense pour l'AS Monaco. Reste plus qu'à valider cette seconde place. Ils ont toutes les cartes en main. Faudra voir ce qui va se passer ce soir avec le résultat de Lille. Mais encore une fois, ils ont encore toutes les cartes en main pour finir à la deuxième place et être le vice-champion de France.
Bon, Elton, on referme la page Ligue 1. On va ouvrir évidemment le gros dossier Ligue des Champions. On le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, qui vivent dans une grotte. Demi-finale de retour de Ligue des Champions mardi soir entre le PSG et Dortmund au Parc des Princes. Défaite 1-0 à l'aller du club francilien en Allemagne. Je voudrais d'abord avoir ton sentiment avant ce match retour parce qu'on a l'impression que globalement on est sur quelque chose d'assez hybride entre le fait qu'on n'est pas si inquiet que ça, et le fait que bah, y a quand même une défaite à l'aller sans marquer, et que le PSG n'est pas dans une position confortable du tout. Toi,
Bah,
comment tu vois ça?
le PSG est en ballottage défavorable pour la simple et bonne raison qu'ils ont perdu 1-0 contre Dortmund. Après, je peux entendre l'idée dans la mesure où c'est un but d'écart, il n'y a rien de rédhibitoire. Luis Enrique a insisté là-dessus en conférence de presse d'après-match. Il risque d'insister là-dessus en conférence de presse d'avant-match qui aura lieu dans quelques heures. Donc c'est ce qui prédomine, le fait d'avoir battu le Borussia Dortmund en phase de poule. Tout ça, tous ces éléments font que du côté de Paris, on n'est pas non plus dans une position où on a abattu. Et ça, c'est logique parce qu'il est question d'une demi-finale retour à la maison. Tu te dois d'aborder ce match, cette rencontre avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de sérénité. Mais pour autant, il va falloir se méfier du Borussia Dortmund qui, lui, pour l'instant, est virtuellement qualifié en finale. Donc, je pense que du côté du PSG, on arrive en équipe avertie, mais avec cette capacité de remonter un score. Ils l'ont fait sur le tour précédent face à Barcelone, encore plus dans un match à l'extérieur. Là, ils sont à domicile, même s'il faut se méfier du Borussia Dortmund, il faut aussi se dire que tu as la maison et tu as l'objectif, tu as la finalité, se qualifier justement en finale à Wembley.
Si on parle un petit peu composition d'équipe, il y a deux enjeux principaux. Un, comment compenser la blessure de Lucas Hernandez? Deux, est-ce qu'il faut changer quelque chose en attaque? Quels sont tes avis sur ces deux questions-là, Elton?
Sur la première question, bah, je pense que l'absence de Lucas Hernandez est quand même un gros coup dur.
Ouais.
Et c'est vrai que quand tu évalues les options qui arrivent, ce n'est pas forcément les meilleures options. Mais après, on l'a déjà dit sur plusieurs épisodes de Tour d'Europe, ça a été l'un des problèmes du PSG, à savoir que personne en défense centrale n'arrivait à tirer son épingle du jeu à côté de Marquinhos. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lucas Hernandez était latéral gauche et que dans l'axe, c'était quand même très ouvert. Il a été question de Danilo à un moment, puis de Beraldo, Skriniar est revenu de sa longue blessure. Donc c'est vrai qu'au moment d'évaluer ses options, il n'y a personne qui tire son épingle du jeu. Bon, je pense que ça va être Beraldo sur match retour. Déjà parce qu'il a été titulaire face à Real Sociedad, face au PSG. Il est rentré face au Borussia Dortmund et je pense que Luis Enrique risque de s'appuyer là-dessus. Pour revenir pour aller sur la deuxième question, je pense que Luis Enrique ne va pas énormément changer de choses parce que lui, même s'il y a eu des fêtes, il mettra en avant le fait que le PSG a quand même eu des occasions en seconde période, il y a un double poteau, et que quelque part le PSG était dans le vrai face au Borussia Dortmund, et qu'il n'est pas l'heure de tout chambouler parce que tu as perdu 1-0 au match aller.
Bon, Elton, on va se concentrer désormais sur Kylian Mbappé, sans trop de surprises. Évidemment, il est toujours au cœur des débats, au cœur des attentions, l'attaquant français. Sauf qu'au match aller, bah, il a été transparent. Un peu comme ça avait été le cas au tour précédent contre le FC Barcelone à l'aller. Alors, c'est presque fou de dire ça, mais est-ce que il est plus attendu au tournant que jamais? Parce qu'on a l'impression de répéter ça à chaque match important du Paris Saint-Germain. Mais là, il y a l'aspect dernier match européen à domicile. Comment tu vois ça? Comment tu vois les attentes autour de Mbappé et qu'est-ce que tu attends de lui sur ce match-là?
C'est vrai qu'il y a un caractère symbolique parce que ça devrait être le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG au Parc des Princes. Et donc par rapport à ça, ça revêt ce caractère symbolique, couplé au fait que le PSG a perdu 1-0 face au Borussia Dortmund. Donc le PSG doit remonter le score, que Kylian Mbappé est passé à côté de sa rencontre. Forcément, Kylian Mbappé est beaucoup plus attendu parce que Kylian Mbappé n'a pas vocation à être ordinaire sur un match, sur une double confrontation de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, on part du principe que c'est le meilleur des 22 joueurs sur le terrain. Et donc, par rapport à ça, Kylian Mbappé se doit de se rattraper. C'est quand même paradoxal parce qu'on parle du meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Harry Kane. Mais pour autant, tu l'as évoqué face à Barcelone au match aller, il n'avait pas été bon, il avait été mis au match retour, il avait quand même mis un doublé qui avait été déterminant. Et là, cette fois-ci, face à une équipe, c'est quand même paradoxal parce que sur les trois derniers matchs face au Borussia Dortmund, il a mis un but, mais c'est sur penalty. C'est-à-dire que dans le jeu, il n'a pas trouvé la solution. Donc peut-être que le Borussia Dortmund, dans le jeu, ils ont la kryptonite Kylian Mbappé, mais cette kryptonite, il va falloir la briser sur ce match-là parce que c'est d'un caractère tellement important que Kylian Mbappé sera particulièrement attendu et qu'on ne peut pas rester sur une copie qui a été franchement ratée pour moi et qui se doit de faire beaucoup mieux sur ce match retour en étant protagoniste déjà, en ayant une meilleure attitude, en ayant un meilleur langage corporel pour se dire que Kylian Mbappé sera le leader du PSG sur ce match est le meilleur des 22 acteurs. Et s'il peut être décisif, c'est encore mieux.
C'est vrai qu'au-delà de l'aspect statistique, tu parles du langage corporel, de l'attitude. Est-ce que tu as l'impression qu'il se met presque lui, alors j'exagère un peu évidemment, mais qu'il se met lui-même presque en difficulté pour mieux rebondir derrière? On a l'impression que c'est un peu ça, sa source de motivation Mbappé, pas se mettre en difficulté volontairement bien évidemment, mais il va se nourrir de ça. Est-ce que c'est encore le cas là et par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, ces matchs ratés puis réactions, c'est un peu le schéma de la Ligue des Champions de Mbappé cette saison. Est-ce que tu partages ça? Et on a même vu ces déclarations d'avant-match. Là, il se met en avant en interview en disant on est très confiant, etc. Est-ce qu'il a raison de communiquer comme ça aussi?
C'est l'histoire de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé adore être attendu au tournant. Kylian Mbappé adore ressentir cette pression où, en gros, tout le monde l'attend dans cette quête et dans cette idée qu'il va être le sauveur du PSG. Et par rapport à ça, je pense pas qu'il se mette lui-même en danger pour ce type de match. Sûrement qu'il aurait signé pour 1-0 à Dortmund avec lui en tant que buteur. Mais là, cette fois-ci, il sait très bien que là, il est dos au mur et que forcément, si le PSG passe à côté de ce match retour, forcément les regards vont se tourner vers Kylian Mbappé, mais aussi sur Luis Enrique, mais davantage sur Kylian Mbappé, parce que lui est sur le terrain. Donc forcément, il a déjà vécu ça au cours de sa carrière où il était attendu, que ce soit avant la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit sur les récents matchs du PSG en Ligue des Champions. On a fait référence à Barcelone, et donc il n'y a pas de raison pour que face au Borussia Dortmund, il puisse passer à côté si Kylian Mbappé est déterminé, si Kylian Mbappé est compétitif, parce que ça va être pour moi deux éléments très 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 important.
Pour terminer, Elton, est-ce que tu as la sensation que l'histoire de ce match sera l'histoire de Kylian Mbappé? Ou est-ce que d'autres joueurs doivent prendre ce match à leur compte et faire tourner le destin du PSG?
À l'instar de ce qui s'est passé contre Barça au match retour, il faut qu'il y ait des joueurs qui soient en capacité de se mettre déjà dans un premier temps à hauteur de l'événement, parce qu'il est question de demi-finale retour. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu une demi-finale retour de Ligue des Champions à la maison. Je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être Lyon en 2010. Donc, c'était pas hier. Donc, par rapport à ça, il y a des joueurs qui doivent répondre présents à l'événement. Et ça doit être une victoire collective. Barcelone nous a montré que c'était une victoire collective où il y a des joueurs qui ont réussi justement à être déterminants. Je fais référence à Vitinha, je fais référence à Barcola, je fais référence à Dembélé. Oui, Kylian Mbappé doit être un joueur qui doit être éminemment important, mais pour autant, il y a des joueurs qui ne doivent pas être dans une situation où ils vont être des spectateurs de cette rencontre. C'est impossible en demi-finale de Ligue des Champions. Et donc, c'est pour ça que j'attends Kylian Mbappé, évidemment, mais j'attends aussi d'autres joueurs qui n'ont pas été forcément à leur avantage au match aller. Je fais référence par exemple à Barcola, je fais référence à Dembélé, qui a une énorme occasion qui fait que on serait un peu plus optimiste s'il avait mis son but au match aller. Donc pour moi, ça doit être une réponse bien plus collective qu'individuelle avec Kylian Mbappé.
Bon, on va surveiller ça de tout près. Match évidemment extrêmement important mardi qui va évidemment compter beaucoup dans l'image aussi que laissera Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Merci Elton pour ton décryptage et on se retrouvera lundi prochain pour analyser cette élimination ou cette qualification du Paris Saint-Germain. On espère évidemment la seconde option. Merci Elton et
Sans
puis très
foot.
bonne semaine de foot européen à toi.
Très bonne semaine et en espérant que les deux clubs français iront en finale. Parce
Effectivement.
que ça peut toujours nous aider pour le Tour d'Europe. Hein.
Effectivement. À la prochaine, Elton. Salut. On enchaîne en Bundesliga. On retrouve notre spécialiste du foot allemand, David Lortolari. David, évidemment, ton avis sur le Borussia Dortmund nous intéresse énormément. Avant cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB, victoire allemande 1-0 à l'aller. On le rappelle. Tout simplement, quelle est j'allais dire l'ambiance, quel est le contexte, de quoi sont animés les joueurs de Dortmund? Est-ce qu'il y a une grosse confiance? Est-ce qu'il y a plutôt de la prudence? Comment on est à Dortmund?
Les choses à Dortmund, salut à tous, les choses à Dortmund se sont vraiment rassemblées dans le sens positif ces derniers temps. Il y a eu quelques bonnes références, quelques bons signaux. Le dernier d'entre eux, en fait, c'est l'annonce vendredi passé de la fin de l'aventure Marco Reus avec son club, avec ce
Oui.
club. Et du coup, bien sûr, chacun va vouloir aussi, en prouvant sur le terrain qu'il peut se dépouiller pour lui rendre hommage pour terminer cette longue, longue décennie, un peu plus même, de présence à Dortmund pour Marco Reus, qui n'est plus un titulaire, mais qui est tout de même encore le symbole, un peu
Tout à
comme
fait.
Thomas Müller peut l'être avec le FC Bayern, qui est quand même le symbole de ce club. Et accéder à la finale à Londres pour Dortmund, pour Marco Reus, ce serait un point évidemment formidablement symbolique et puissant. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a aussi la conjonction de ces résultats intéressants, avec bien sûr le match qui est considéré comme le match référence, le match retour contre l'Atlético de Madrid, avec un scénario favorable à un moment, défavorable à un autre moment du match, avec deux buts à remonter pour passer, et finalement, on s'arrache pour se qualifier. Donc ça a provoqué au sein de l'équipe et au sein du public de Dortmund réellement une espèce d'énergie pour le sprint de fin de saison. Dortmund est rassuré aussi parce que cette victoire contre le Paris Saint-Germain au match aller lui a assuré une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Maintenant,
Oui.
en Bundesliga, c'est officiel, c'est certain. Donc, il y a une sorte aussi de libération à travers cette victoire. Et puis surtout, j'en terminerai par là, surtout les ingrédients du match aller, c'est-à-dire la détermination, l'engagement, le travail pour les autres. Le brin de chance qu'il a fallu lorsqu'il y a eu le poteau notamment de Kylian Mbappé, la difficulté à tenir le coup en seconde période à un moment donné du match, ça s'est bien passé finalement, la réussite de Niklas Füllkrug, et on veut croire qu'on est capable au Parc des Princes de prouver exactement la même chose, avec les mêmes ingrédients, avec une équipe concernée, concentrée, qui montre... J'ai réécouté les commentaires du match en direct allemand depuis ce match-là, qui montrent que Dortmund a un visage Ligue des Champions, tout à fait crédible, tout à fait de niveau de demi-finale de cette compétition, et a un visage de championnat qui est beaucoup plus chaotique, beaucoup moins concerné. C'est surprenant à expliquer, c'est compliqué à expliquer,
Ouais.
et Dortmund a acquis des certitudes dans cette Ligue des Champions, premier de son groupe, avec Newcastle, Milan, Paris Saint-Germain, victoire relativement probante contre PSV Eindhoven en huitième, le match référence contre Atlético de Madrid, et puis cette solide résistance contre Paris. Donc on veut croire que ce but d'avance peut suffire au match retour à Paris. Bien sûr, chacun sait que ce sera très difficile, mais il y a une grosse confiance accumulée sur ces dernières semaines.
Alors, avant ce match retour, petite question, composition d'équipe. Est-ce que dans les formes du moment, est-ce que dans d'éventuels pépins ou dans des choix tactiques, on peut s'attendre à voir des choses différentes de ce qu'on a vu en Allemagne au match aller?
Il y a une petite différence possible, mais ça va être vraiment ponctuel. Vous avez vu que lors du match de championnat ce week-end, qui a été largement gagné par une équipe
Oui.
B, voire C, Dortmund avait fait tourner ses 10 joueurs de champ,
Oui.
c'est-à-dire que les 10 qui ont commencé en championnat n'étaient pas présents au coup d'envoi du match contre le Paris Saint-Germain. On a reposé, on a fait jouer une demi-heure, 20 minutes, certains joueurs essentiels. On a fait démarrer aussi le jeune Vétienne en défense, un jeune garçon qui est en train de passer le bac et qui ne sera pas disponible pour l'anecdote pour le match contre le Paris Saint-Germain. Mais donc voilà, on va revenir à l'équipe qui était sans aucune difficulté, qui était présente contre Paris. Il y aura peut-être un ou deux changements en attaque si Daniel Malen est apte, parce que c'est quand même l'un des deux, trois meilleurs buteurs de cette équipe, l'ailier néerlandais. S'il est apte, il pourrait éventuellement débuter.
Ouais.
Ça, on peut y revenir aussi, parce que c'est ce sur quoi compte Dortmund, la vitesse dans le dos des Parisiens qui vont devoir faire le jeu. Peut-être Malen titulaire, mais sinon, on va retrouver les mêmes. On va retrouver Hummels, Schlotterbeck, on va retrouver Sabitzer, Emre Can, Brandt au milieu de terrain. Niklas Füllkrug, il y aura la confiance aussi en attaque. Et puis, le jeune Moukoko restera une option, un joker peut-être pour la fin de match si besoin. Je pense qu'on n'aura pas de surprise dans la compo d'équipe de Dortmund pour ce match.
Alors, il y a une question qu'on aime bien te poser, David, c'est la vision de la presse allemande de cette équipe du PSG, un peu comme on l'avait fait après France-Allemagne lors d'une trêve internationale, pardon. Comment est-ce que la presse allemande a vu ce match aller, a analysé ce match aller du PSG? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont on voit cette équipe après cette victoire à l'aller ou pas spécialement?
Ben, il y a trois aspects très simplement qui vont correspondre un petit peu à ce qu'on voit en France. C'est-à-dire, c'est l'équipe de Luis Enrique. Ça, c'est le
Ouais.
premier point. Et on a vu, parce qu'ils ont été étonnés en Allemagne. Nous, on sera moins étonnés peut-être, mais ils ont été étonnés du changement lorsque Lucas Hernandez a dû quitter le terrain
Ouais.
dans ce match-là. Et tout le monde attendait Milan Skriniar. Et finalement, c'est le jeune Beraldo qui entre. Et les observateurs en Allemagne sont peut-être un peu moins au fait de l'effectif et des états de forme à Paris. Et surtout, ils ont dit, ah, voilà un jeune qui rentre, c'est parce que Luis Enrique veut mettre sa patte sur cette équipe, sur cet effectif, sur le scénario des matchs. Donc ça, c'est un premier point, l'équipe de Luis Enrique. Deuxième point, toujours des superstars en attaque. Neymar, Messi ne sont plus là, mais on sait que Mbappé, que Dembélé, que d'autres autour d'eux aussi sont le danger numéro un. Et puis troisième point, c'est lié à ce deuxième point-là, il y a des ouvertures dans la défense de Paris. Dortmund l'a compris, c'était une contre-attaque rapidement jouée au match aller. J'imagine qu'on va compter aussi là-dessus au match retour, la vitesse d'Adeyemi, la vitesse de Sancho, éventuellement Malen pour les contre-attaques. Donc ce sont ces trois aspects-là. Une équipe à ne surtout pas sous-estimer en attaque, une équipe qui laisse peut-être quelques ouvertures en défense, et puis une équipe façonnée par Luis Enrique. Ça surprendra en fait personne.
Effectivement. On va refermer cette petite parenthèse, cette belle parenthèse même Dortmund, pour ouvrir le sujet Bayern Munich, qui joue, a lui aussi une demi-finale retour de Ligue des Champions à disputer contre le Real Madrid, de partout à l'aller. Mais on va se concentrer sur ce qui se passe sur le banc du Bayern Munich, à savoir pas grand-chose depuis l'annonce du départ de Thomas Tuchel en fin de saison. On a l'impression que le Bayern essuie refus après refus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de ce banc à partir de cet été, David?
Oui, alors c'est incroyable ce qui s'est passé ce dimanche. Le très très sérieux journal régional de la Bavière, le Süddeutsche Zeitung, qui a une audience internationale, qui est très sérieux, qui fait des dossiers très approfondis de l'investigation, a sorti un article, une sorte de calendrier de l'Avent avec des propositions plus ou moins loufoques pour devenir entraîneur du Bayern. Alors il y a Boris Becker, il y a Matthäus, il y a Effenberg, il y a Thomas Müller, il y a Arjen Robben. C'est incroyable qu'un journal comme ça, hyper sérieux, en soit arrivé là. C'est devenu une espèce de gag en Allemagne, le recrutement du prochain entraîneur du Bayern, avec la sensation qu'effectivement, refus le dernier, c'est Lopetegui, hein, le dernier en date.
Ouais.
Refus de Rangnick, refus de Xavi Alonso, refus de Thomas Tuchel évidemment parce qu'il a répété encore que il n'était pas question de changer d'avis. Les dirigeants du Bayern l'ont confirmé aussi, même si on peut s'attendre à tout. J'en oublie aussi parmi les entraîneurs qui ont refusé. Et alors, le directeur sportif qui est en train de s'installer, qui est en train de prendre ses marques, qui s'est installé pour du moyen long terme, Max Eberl, un homme de grande compétence, a été interrogé par la télévision allemande ce week-end. Il s'est montré toujours très serein, en expliquant que c'était normal que le Bayern ait à demander, prenne du temps pour chercher. C'était normal que certains, et légitime que certains entraîneurs refusent parce que ça correspondait pas forcément à leurs attentes du moment. Il a été à la fois diplomate et plutôt convaincant. La question est, vers qui va-t-on désormais? Alors, il y a une solution de, comment dirais-je, d'arrière-cour, sans être de ma part méprisant, ce serait Erik ten Hag. Erik ten Hag a été brillantissime avec la réserve du Bayern il y a quelques années, et il a laissé une image formidable en Bavière. Et je pense que si Éric Ten Hag devait arriver, les supporters lui donneraient du crédit d'emblée. Parce qu'encore une fois, lorsqu'il s'était occupé de la réserve, ça avait été formidable. Ça n'est pas l'équipe première, mais on pense à lui. Et puis alors après, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que bien sûr, il n'y a pas de réponse absolue. On remet Zinedine Zidane, Franck Ribéry sur le tapis, mais on sait bien que c'est pas le choix numéro un pour des raisons de langage, pour des raisons de fluidité dans le vestiaire, pour différentes raisons comme ça. Voilà, ça commence à faire beaucoup. De Zerbi a expliqué aussi qu'il voulait rester en Angleterre. Donc aujourd'hui, la question demeure entière. Le Bayern se donne du temps. Les joueurs disent qu'il ne se concentre que sur le terrain, c'est ce que
Bien sûr.
Serge Gnabry a encore répété ce dimanche, mais le mystère reste entier.
Bon, le mystère reste entier, on va suivre ce dossier de près, comme on suivra bien sûr cette demi-finale retour de Ligue des Champions avec beaucoup d'attention. Tant le Bayern a montré des choses intéressantes par séquence au match aller, David. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On se retrouve très vite dans Tour d'Europe. Et puis d'ici là, très belle semaine de football européen à toi. Salut David.
Merci à vous, merci, ciao.
On enchaîne avec la Liga et on retrouve notre spécialiste du foot espagnol, Ana Caro. Salut Ana, j'espère que le week-end a été bon. En tout cas, en Liga, il a été chargé. Il y a eu deux moments forts réunis en un, puisque finalement, c'est le Gérone-Barça qui a un petit peu décidé de tout ça. Victoire de Gérone contre le Barça, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer en premier avant de parler du titre du Real. Mais Gérone qui valide sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, qualification historique. On a beaucoup parlé de Gérone en début de saison, quand il y avait limite cette lutte pour le titre. Depuis, peut-être que certains ont un peu perdu de vue cette équipe. Raconte-nous un petit peu comment ils ont continué, eux, de leur côté, à mener leur quête de Ligue des Champions.
Alors, évidemment, ils ont eu un passage à vide. On pouvait s'y attendre. Ils ont eu, en fait, des joueurs assez importants dans l'effectif qui ont été blessés. Je pense notamment à Yann Herrera.
Ouais.
Et même le capitaine, Alexis Garcia, qui a mis du temps à revenir de sa blessure. Donc, en fait, ils ont perdu un peu ce rythme, ils ont fait des matchs nuls contre des équipes du bas de tableau, donc un peu des scores inattendus quand on prend en exemple leur début de saison, mais pas totalement inattendus. Bah, c'est un peu comme Brest hein, en Ligue 1, hein. Évidemment,
ouais.
On peut pas tenir une cadence à ce rythme-là quand on n'est pas forcément prévu pour jouer la Ligue des Champions. Mais ils ont su bien se relancer là depuis le mois de mars, et donc ils arrivent à gagner cette deuxième place. Ils sont devant le Barça parce qu'ils ont gagné contre le Barça le week-end, enfin ce week-end. Et finalement, c'est surtout une belle histoire et une belle preuve du coaching de Mitchell, parce qu'on pensait que début d'année, du coup en janvier, février, quand ça commençait un peu à fatiguer du côté de Girona, que bah voilà, on allait finalement, ça allait s'écrouler peu à peu,
ouais.
Parce que bah voilà, les organismes sont fatigués aussi. Et en fait, pas du tout. Il a réussi même un peu à réinventer son effectif. Il a mis par exemple Eric Garcia quasiment tout le temps en latéral droit. Donc il est passé dans un 4-3-3, alors qu'avant il était plutôt sur un 4-1-4-1, voire 4-2-3-1. Enfin, ça dépendait un peu. Là, il est un peu repassé au classique.
Ouais.
Et c'est un système qui fonctionnait pas très bien pour lui début de saison. Et puis en fait, il fonctionne très bien sur cette fin de saison. Donc voilà, il a su se remodeler son effectif, remodeler sa façon de jouer, et pour relancer son équipe. Et c'est une très grosse performance.
Ouais, effectivement, énorme performance. On est serein sur, peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, mais sur la saison prochaine, sur la capacité à gérer justement ce grand saut que ça va être vers la Ligue des Champions.
Ça va beaucoup dépendre de qui reste au club.
Ouais.
Bon, déjà, du côté de la direction sportive et de Mitchell, là-dessus, ils vont rester. Donc déjà, il y aura tout cet équilibre-là, et qui est un équilibre très important, parce que par exemple, si on prend le rôle de Quique Carcel, que le directeur sportif du club, c'est lui qui a ramené tous les talents qui brillent cette saison, qui ont brillé aussi la saison passée, si on prend Miguel Gutiérrez par exemple. Donc au niveau du staff et de la direction, ça va rester stable. Après, à voir, parce que par exemple Aleix Garcia commence à avoir un certain âge, lui il rêve de jouer au Barça, et le Barça a besoin d'un milieu de terrain parce qu'ils ne sont pas sûrs de récupérer Gavi dès le début de saison.
Ouais.
Donc ils vont aller chercher quelqu'un sans doute, et prendre Aleix Garcia qui connaît la maison, qui connaît la Liga, qui performe déjà à un bon niveau, ça pourrait être une bonne prise en tout cas pour le Barça, et une grosse perte pour Girona. Mais bon, ça reste le titre en lui-même aujourd'hui est très peu marqué de l'empreinte du City Group, parce
ouais.
que hormis des Yann Couto ou Savio, bon, quand même était important, mais le reste de l'effectif est plutôt un effectif local. On peut s'attendre à ce que le Citigroup mette de l'argent la saison prochaine et qu'on ait encore des recrues de... parce que c'est beaucoup d'enfants, enfin de jeunes adolescents qui jouent à Girona, qu'on ait beaucoup de, je sais pas, de jeunes brésiliens ou sud-américains qui viennent soutenir Girona et aussi étoffer l'effectif, parce qu'évidemment, ça va jouer tous les trois jours.
On va suivre de près ce qui va se passer cet été du côté de cette belle surprise de la saison en Liga. Et nous, de notre côté, on va ouvrir le gros dossier, la grosse page Real Madrid. On va commencer par évidemment ce qui s'est passé ce week-end, à savoir ce 36e titre de l'histoire du Real Madrid en Liga. On a presque l'impression que c'est un titre qu'ils ont acquis tranquillement, le Real. Raconte-nous un petit peu cette saison et voilà, comment ils se sont rendus ce titre facile, entre gros guillemets, bien évidemment.
Eh ben, tout simplement, le Real n'a pas tremblé du début à la fin de sa saison. Ils ont une seule défaite, c'était en début de saison, à la 6e journée contre l'Atlético. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas eu d'autres défaites dans la saison du Real Madrid en Liga. Et là où on disait en début de saison que Girona faisait une saison historique en termes de nombre de points pris au bout de tant de journées, et il y avait des stats qui disaient que quand tu avais ce certain nombre de points que Girona avait, t'étais forcément champion. En fait, le Real Madrid a déjoué ses stats parce que lui-même a pris encore plus de points que ce que pouvait prendre Girona en gagnant parfois avec des 1-0 ou avec juste une victoire, enfin un but d'écart. Ils ont gagné 11 fois comme ça cette saison. Ils ont réussi plusieurs fois à renverser des matchs. On pense notamment à l'importance de Bellingham dans les Clasicos.
Oui.
Ils ont vraiment rendu ce titre facile, mais parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs presque. Et ils ont vraiment pas eu de soucis, se sont parfaitement adaptés à tous les changements qu'il y a eu en début de saison dans les effectifs. Et c'est juste providentiel presque ce qu'a fait le Real Madrid, parce que c'est comme si le titre de Liga leur était donné dès les premières journées, parce que eux ont tout fait bien. Et que même les autres, s'ils faisaient très bien aussi, eux ont fait encore mieux.
Je crois que Carlo Ancelotti a évoqué notamment l'aspect défensif en conférence de presse. Le Real, ça a été aussi ça cette saison, avant tout même, j'allais dire, une grosse défense en Liga.
C'est la meilleure attaque de Liga et la meilleure défense de Liga. Donc voilà. Forcément, quand on a ces chiffres-là, on ne peut que être champion d'Espagne. Et c'est d'ailleurs très... surprenant, on va dire, que cette défense prenne si peu de buts, parce qu'on rappelle que le Real a démarré la saison avec les blessures de Courtois, Militao,
ouais,
et de Alaba ensuite. Donc ça fait beaucoup de monde en moins derrière. Et puis parce que quand André Ilounin est lancé à la place de Courtois, à l'époque Kepa n'était pas encore arrivé, parce qu'il arrive à la fin du mois d'août, André Ilounin, c'est pas la sécurité qu'il est actuellement. Mais Carlo Ancelotti a su mettre tous les éléments qu'il avait, ceux qui étaient valides en tout cas, en confiance et lui ont très bien rendu. Ça a pris parfois plusieurs matchs, comme Lounine, comme même Rudiger, parce qu'il était parfois beaucoup à contre-temps en début de saison. Et finalement, ils sont montés en puissance. Et ce titre, il porte vraiment la patte de Carlo Ancelotti, parce que c'était moins le cas, par exemple, ces dernières années, parce qu'il avait un effectif avec des Modric, Kroos, Casemiro, qui étaient... beaucoup trop fort et qui savaient presque eux-mêmes ce dont ils avaient besoin de faire sur le terrain. Et là il a des plus jeunes, donc il faut qu'il les dirige. Il a des joueurs qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément le placement tactique du Real, les composantes de la Liga. Et il a réussi à adapter tout le monde et à lancer tout le monde dans ce titre. Et c'est vraiment un titre qui porte la patte de Ancelotti. Et beaucoup de Jude Bellingham quand même.
Effectivement, Jude Bellingham, on en a beaucoup parlé. Tu as parlé de la gestion des blessures, l'intégration des jeunes, de la rotation, etc. C'est vrai que quand le Real a démarré cette saison, avant même qu'elle démarre d'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions. Beaucoup, voire tout le monde a dit c'est une saison de transition avant l'arrivée de Kylian Mbappé ou de Erling Haaland ou qui sais-je, mais d'un gros attaquant devant après le départ de Karim Benzema. En bref, on attendait presque pas grand-chose de ce Real cette saison. Est-ce que c'est un avis partagé par la presse espagnole ? Est-ce que le fait que le Real soit encore engagé en demi-finale de Ligue des Champions, soit vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, est-ce qu'on peut être sur une des saisons les plus spéciales dans l'histoire récente du Real Madrid ?
Spéciale, oui, parce qu'elle est marquée cette saison beaucoup par des jeunes talents. Et on prend Vinicius, bon évidemment lui il a commencé à faire ses preuves avant cette saison, mais des Rodrigo par exemple qui a une très grosse importance, Jude Bellingham qui tout juste arrive à mettre 18 buts cette saison. Et ce Real Madrid, il n'est pas forcément habitué à voir des jeunes briller. Et c'est pareil, parce qu'André Iluni, il n'est pas très âgé pour un gardien. Ouais. Donc on a beaucoup de jeunes qui ont amené cette solidité. Et puis on rappelle que Ancelotti, c'est pas un fan hein, de jouer avec des équipes très jeunes, de lancer des très jeunes. Mais là, il a fait avec ce qu'il avait, entre guillemets. Ouais. Il n'avait pas vraiment le choix que celui de s'habituer à son effectif, de s'adapter à son effectif. Et il a mis ce système avec Bellingham en 10, avec Rodrigo et Vinicius, un peu comme des électrons libres en attaque devant. Et ça, c'est lui qui l'a mis en place. C'était un coup de poker un peu, parce qu'on se rappelle quand il le lance ça en match de pré-saison, c'était, y avait quand même beaucoup de doutes de dire Bellingham en 10. comment ça, on ne le met pas en 6 et finalement, ça s'est très bien passé. Et si on regarde du côté de la presse madrilène, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes d'avoir un numéro 9. Quand c'est Joselu qui est arrivé en prêt en plus, il y a eu quand même quelques éditorialistes qui ont rigolé dans leur coin parce que Joselu, c'était 14 buts je crois la saison passée avec l'Espagnol, ce qui est très fort parce que l'Espagnol n'était pas très fort, ils sont descendus, mais c'était pas du tout un œuf à la hauteur de ce que pouvait être Karim Benzema. Finalement, il a mis un certain nombre de buts quand même très importants, et tout ça en fait, finalement, on se rend compte que c'est aussi du coup Ancelotti qui a réussi à mettre en confiance ceux qu'il y a aussi sur le banc, parce que Joselu a mis des buts importants, mais par exemple, ce week-end, c'est Brahim Diaz qui s'est illustré contre Cadiz. Et à la base, il n'avait pas forcément la confiance d'Ancelotti. Et puis, en fait, il l'a gagné au fur et à mesure. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a un cadre sain de travail au sein du Real Madrid. En tout cas, si on prend juste l'équipe avec son coach, parce que des fois, c'est toujours compliqué avec la direction. Mais sur l'ambiance de travail, ils ont vraiment comme fait une bulle et se dire... pas Mbappé, pas Haaland, c'est pas notre problème. Nous, on va montrer ce qu'on vaut. Et certains, comme Rodrigo, ont eu beaucoup à prouver et ont beaucoup prouvé.
Tu parles de bulle. J'imagine que le Real, avant sa demi-finale, retour de Ligue des Champions contre le Bayern, donc mercredi soir, il essaye de rester dans sa bulle, de ne pas être trop dans l'euphorie, à moins que tu m'annonces l'inverse. Mais j'en doute, comment est-ce qu'il est l'état d'esprit avant ce match crucial?
Eh ben, Carlo Ancelotti, avant le match contre Cadiz, avait dit qu'il ne savait pas s'ils allaient fêter le titre et que dans tous les cas, c'était pas sa préoccupation si jamais le Barça perdait contre Girona. Ça s'est fait. Finalement, il y a quand même quelques petites vidéos du vestiaire qui sont sorties où on voyait Ancelotti bien fêter ça avec ses joueurs. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une énorme cohésion dans ce groupe. Ils l'ont fêté. Apparemment, ils étaient devant le match, hein, tous ensemble dans le vestiaire. Mais voilà, maintenant, place à autre chose, parce que si on regarde par exemple les publications Instagram de tous les joueurs, c'est ok, on a gagné ce titre, on est content, mais maintenant c'est à por más, c'est pour un autre, on va aller chercher l'autre titre. Et parce que même les plus jeunes, comme Tchouaméni d'ailleurs, c'est un de ceux qui publie ce à por más, il a intégré cet esprit Real Madrid. Ouais. Et c'est ce qu'expliquait par exemple Kamavinga quand il est arrivé au Real, qu'en fait le titre de Liga il avait célébré vite fait, mais qu'après c'était la Ligue des Champions en fait qui comptait. Et là, on sent que tout cet effectif, même s'il est beaucoup plus jeune que ce qu'a pu avoir Carlo Ancelotti avant, il a finalement pris cette expérience de la Ligue des Champions et qui sait que maintenant, le titre de Liga, c'est réglé. Il faut aller chercher le suivant. Et d'ailleurs, le Real a prévu de célébrer ce titre de Liga après la demi-finale retour contre le Bayern et veut célébrer avec l'ensemble du stade à la fin de la saison, donc se garde la possibilité de fêter aussi une Ligue des Champions en fait.
Ouais, il est possible qu'ils aient encore des choses à fêter, les Madrilènes. Évidemment, c'est une équipe à suivre sur ces dernières semaines de compétition. On suivra évidemment de très très près cette demi-finale retour contre le Bayern, match encore très ouvert, on le rappelle, de partout au match aller. Merci beaucoup Anna pour ton décryptage et puis on se retrouve très vite dans Tour d'Europe. Allez, on termine ce Tour d'Europe de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, avec Philippe Auclair, notre spécialiste du football anglais. Salut Philippe, on a eu l'occasion de parler énormément de la course au titre dans Tour d'Europe ces dernières semaines. Cette semaine, on va balayer ça un peu plus vite, avec les victoires d'Arsenal, Manchester City qui continuent leur rythme infernal en tête, pour se concentrer sur la course aux places européennes, à la Ligue des Champions et même aux autres places européennes. Parce qu'on a cette sensation qui est que cette lutte est très décousue. Ce week-end, Aston Villa et Tottenham ont perdu. Qui veut de ces places européennes, Philippe?
Alors écoute, je pense que tout le monde les veut. Mais qui va les avoir? Je suis bien en peine de pouvoir te le dire à ce moment. Si tu regardes le classement, je vais le regarder à nouveau, parce que mine de rien, nous basons-nous sur des faits. En ce moment, donc, c'est Aston Villa qui est en pole position pour la quatrième place qualificative pour la C1. Alors rappelons au passage que les clubs anglais espéraient au début de la saison, en raison du changement de la compétition de la Ligue des Champions à partir de 2024-2025, ils espéraient avoir cette fameuse cinquième place
Oui.
supplémentaire. Or, tu auras vu comme moi que les résultats des clubs italiens et allemands
Oui.
ont fait que maintenant l'Angleterre ne peut pas terminer plus haut que troisième. Donc, elle ne fera pas partie des pays qui disposeront d'un représentant supplémentaire en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire qu'on est dans la configuration normale, quatre places en Ligue des Champions, et puis ensuite l'Europa League et l'Europa Conference League. Donc, pour l'instant, Aston Villa est toujours en pole position pour la quatrième place. Même si les résultats sont pas absolument fantastiques. Là, ils ont perdu à Brighton. Ils avaient fait match nul contre Chelsea il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient fait match nul 3-3 contre Brentford. Ils avaient perdu contre Manchester City. Tout ça venant curieusement dans une série de résultats où ils ont également battu Aston Villa, ils ont battu Arsenal 2-0, changeant complètement le cours de cette course au titre. Mais bon, bref, Aston Villa, en plus de ça, reste sur une gifle.
Ouais.
En Europe, où
Ouais.
très honnêtement, personne n'avait vu venir cette victoire 4-2 de l'Olympiakos à Villa Park. Donc Villa, ça va pas très bien. Mais si Villa, ça va pas très bien, il y en a un qui va encore plus mal, c'est Tottenham. Tottenham, les 4 derniers matchs en Angleterre, c'est 4 défaites. Alors certes, le programme était horrible. Ils devaient se déplacer à Newcastle. Ils recevaient Arsenal pour le derby du nord de Londres. Arsenal qui se bat bien évidemment pour le titre. Ils allaient ensuite à Chelsea. Chelsea qui va beaucoup beaucoup mieux, curieusement, et qui au passage, on va le voir dans un instant, n'est pas en dehors du coup pour une place en Europe, ce qui est quand même assez
Ouais.
hallucinant. Et puis, ils ont tombé sur une équipe de Liverpool qui s'est souvenu comment marquer des buts et ils ont perdu 4-2 ce week-end. Donc, et là, ça fait 4 défaites consécutives. Et quand tu regardes le classement, donc tu as Tottenham en 5e place, donc position Europa League, à 7 points. Ils ont encore 3 matchs à jouer, donc 9 points maximum. Si Villa devait se prendre les pieds dans le tapis lors de ces 2 derniers matchs, sait-on jamais, ils reçoivent Liverpool le 13 mai, et ensuite ils vont à Crystal Palace qui va très bien. Donc c'est pas totalement impossible, mais ça signifie que Tottenham doit faire grosso modo 3 matchs, 3 victoires. Et bien évidemment, le deuxième de ces matchs nous intéresse au plus haut point, puisque c'est le déplacement de Manchester City à White Hart Lane.
Tout à fait.
C'est compliqué. Et puis derrière, bon, ben, Newcastle retrouve des couleurs, mine de points, ils sont à 56 points, ça veut dire que eux aussi, avec 3 matchs à jouer, Chelsea est à 54, tout comme Manchester United, qui n'a joué que 34 matchs, qui a encore 4 matchs à jouer. 4 fois 3, 12, je fais mes comptes, ça leur donne une position possible en Europa League également. Donc en ce moment, c'est complètement le. Mis à part, on connaît les 3 premiers qualifiés pour la Ligue des Champions, donc Arsenal, Manchester City et Liverpool, ça ne fait absolument aucun doute. Par contre, derrière, très honnêtement, c'est la bouteille à l'encre, et je serais bien en mal aujourd'hui de te dire, mais qui sera en Europe? Et il n'est pas du tout impossible qu'un de ces clubs qui vont très mal, ou dont on croyait qu'ils vont très mal, eh bien, tout compte fait, se retrouvent en fin de saison et viennent chipper une place en Europe à des clubs qui, eux, avaient fait un début de saison absolument formidable. Je pense à Tottenham en particulier. Et quand tu vois l'état de forme de Chelsea en ce moment, qui sont vraiment impressionnants, Manchester United, tu sais jamais à quoi t'attendre avec eux. Bon, il est possible que la finale de Cup soit ce qui les intéresse plus
Ouais.
que l'Europe, hein. Et de toute façon, s'ils gagnaient la Cup, ils seraient dans une compétition européenne. Mais c'est en effet un combat pour le moins confus. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de fumée, mais on peut pas vraiment te dire, je peux pas vraiment te dire en ce moment qui des armées en présence ont vraiment un avantage, si ce n'est au niveau arithmétique, où Aston Villa a quand même une zone de confort relativement importante, 7 points, pas mathématiquement suffisante, mais 7 points, alors que bon, ils n'ont plus que 2 matchs à jouer quant à eux. Enfin bon, ça va être compliqué, ça va être passionnant.
Bon, on peut quand même pas s'empêcher de parler de la course au titre. Tu nous as fait la bande-annonce de ce Tottenham-Manchester City qui arrive. On a espoir, non pas qu'on soit plus pour Arsenal que pour Manchester City, mais on a espoir
Tu parles pour toi,
que ce Tottenham-Manchester City puisse être un tournant dans la course au titre, un match bascule. Tout cas, on avait espoir. Là, quand on voit la série de Tottenham, est-ce que les Spurs sont vraiment en mesure de bousculer ce géant Citizen, ou est-ce que vraiment, en Première Ligue, chaque match a sa vérité et il ne faut pas faire des plans sur la comète?
On ne va pas faire de plans sur la comète, mais quand même, ce qui est étonnant, c'est que Manchester City est à la fois pas au mieux. Quand on a vu les performances, c'était contre Luton,
oui,
par exemple, où ils ont vraiment, vraiment souffert. Quand tu vois la performance, quand tu vois leur dernier match, qui était des matchs relativement faciles, tu te dis, les Wolves, qui sont un adversaire un peu peau de banane, mais encore une fois, ça n'a pas été totalement convaincant de A à Z. Le problème, c'est que lorsque tu déclines l'alphabet de Manchester City en 90 minutes, tu te rends compte que les premières lettres, ça bafouille un petit peu. Et puis, que je pense à partir du moment où ils sont à L ou M ou N, il y a quelque chose qui se met en place et la machine commence à dérouler. Et une fois que la machine commence à dérouler, cette machine ressemble à un rouleau compresseur, particulièrement lorsque tu as Erling Haaland qui tout d'un coup se redécouvre, qui a eu une saison un peu compliquée, on le sait, à son niveau, hein, parce qu'il est toujours en tête du classement des meilleurs buteurs en Angleterre. Mais là, tout d'un coup, il nous met un autre quadruplé. Bon, voilà. Et tu te dis que les armes sont telles. La seule chose qui puisse peut-être... petit élément qu'on doit ajouter malgré tout à ça, c'est le fait que Manchester City a également une finale de Cup à disputer, hein, ne l'oublions pas, contre Manchester United. Donc, un match quand même tout de même important. Mais ils ont les ressources. Et tu te dis, tu vois difficilement comment ça pourrait tomber. Cela dit, c'est souvent dans les matchs auquel on n'a absolument pas pensé, que la décision se fait. Mais alors, est-ce que ça va être contre Tottenham ? Tottenham, au passage, a obtenu dans le passé de très bons résultats contre Manchester City, même avec José Mourinho. Mais évidemment, je pense que pour les fans des Spurs, c'est un peu un crève-cœur, parce que bien évidemment qu'ils veulent que leur équipe retrouve la Ligue des Champions. Mais si d'un autre côté, ça doit donner le titre à Arsenal... J'imagine.
Voilà,
je pense qu'il y a... Oui, mais ça serait...
Le clin d'œil serait sympathique,
très, très, effectivement. Très, 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 très dur. Mais en tout cas, bon, on attend évidemment ce match en s'imaginant bien évidemment que les matchs qui seront joués avant cela aillent dans le sens de la logique et qu'on ait donc encore Arsenal et Manchester City qui soient tous les deux en pole position. Hein. Ce n'est pas nécessairement... mais ça ne sera pas nécessairement dans cet ordre. Mais donc, c'est le 14 mai, ce match qui a été reporté, en raison justement de la participation de Manchester City à la Cup, et ce sera le match de vérité. Mais il va falloir qu'Ange Postecoglou, il va falloir qu'il retrouve des joueurs, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs qui jouent hors de position. Il y a des choix qu'il a fait en ce moment qui ne sont pas nécessairement évidents, des joueurs qui sont un peu en méforme. Ça te montre toute l'importance d'avoir un effectif très profond. Les problèmes d'Aston Villa et de Tottenham sont des problèmes qui sont pour la plupart liés à des absences sur blessure ou tout simplement des joueurs à qui on a fait appel trop souvent et qui aujourd'hui roulent sur la jante. Et du coup, bon, ça devient très, très difficile. Quand tu n'as pas 30 joueurs à qui faire appel, mais seulement, 30 joueurs, j'exagère, 25, restant dans les règles, mais quand tu n'as pas 25 joueurs qui sont, on va dire, du niveau requis, comme ça peut être le cas d'Arsenal et puis surtout de Manchester City, mais aussi de Liverpool, tu te retrouves avec tout d'un coup des joueurs qui jouent hors de position, des joueurs qui sont inexpérimentés, etc., etc., et d'autres qui sont quant à eux épuisés mentalement, physiquement, et ça se montre sur le terrain. Donc tout est encore possible, mais quand même l'avantage reste à Manchester City pour cette dernière 3 journées qui sont pour certains clubs 4 journées, Manchester United en l'occurrence, et pour certains autres clubs 3 journées. C'est assez compliqué tout ça. On fera les comptes le dernier week-end de la saison.
Effectivement, on aura beaucoup de choses à se dire encore. On a fait un point global sur ce Manchester City. On va faire un focus sur un joueur, Phil Foden. Pourquoi ? Eh bien parce que le polyvalent ailier milieu de terrain attaquant anglais a été élu joueur de la saison par l'association des journalistes...
Footballeur de l'année. Il y a deux distinctions en Angleterre.
Ouais,
l'une, c'est le joueur de l'année de la PFA, de l'association des joueurs professionnels. Et l'autre, ce qui est beaucoup plus prestigieux, hein, ce n'est pas parce que je fais partie du comité exécutif que je te dis ça, un petit peu, mais pas seulement, c'est un petit peu l'équivalent, si tu veux, de Ballon d'Or et de Best. En ce sens que Ballon d'Or, c'est ce qui compte, de Best, c'est la récompense de la FIFA, tout le monde s'en fiche un peu. La PFA, c'est important, mais la FWA, c'est beaucoup plus important. Je pense que c'est le plus ancien trophée individuel qui soit décerné dans le monde du football, puisque c'est en 1947 que ça a été fait pour la première fois. Et c'est donc un jury de 900 journalistes, c'est beaucoup, spécialisés dans le football, qui délivrent leur verdict et pour le joueur le footballeur de l'année et la footballeur de l'année qui au passage est une condisciple, j'allais dire, de Phil Foden puisque elle aussi joue pour Manchester City, c'est Bonnie Shaw. Khadija Bonnie Shaw qui a été élue footballeuse de l'année. Pour Phil Foden, je m'attendais très honnêtement à ce que ça soit beaucoup plus serré que ça, mais en fait, il a eu 42% des voix. Or, comme c'est un scrutin à l'anglaise uninominal à un tour, tu sais, comme dans les élections législatives, tu arrives en tête, tu gagnes. Il n'y a pas de deuxième préférence ou troisième préférence. Et il a donc gagné avec 42% devant Declan Rice et devant Rodri, autre surprise. Ensuite, Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer pour le top 6. Et il y a 12 autres joueurs, dont Bukayo Saka, que je m'étonne beaucoup de ne pas voir figurer dans le top 6. J'avoue que c'est une aberration, en ce qui me concerne, hein, qui ont été cités également parmi tout ça. Mais bon, il faut reconnaître quand même que Foden a eu une saison exceptionnelle au niveau arithmétique, 24 buts et 10 passes décisives, ce qui est quand même pas rien. Qu'il a joué dans un nouveau rôle également, comme tu disais, le joueur polyvalent, le couteau suisse, mais on l'avait vu à gauche, on l'avait vu à droite, on l'avait vu meneur de jeu, et là, il a été déployé plus souvent dans son poste de prédilection, c'est-à-dire dans un rôle axial, que ce soit en attaquant de soutien, au numéro 10, voire même en attaquant tout court, et ça lui a profité, et il a passé un palier après une année 2022-2023 qui avait été plus problématique pendant laquelle on s'était posé la question, est-ce qu'il n'est pas en train de plafonner, etc. Ben non, il n'a pas plafonné. Et il est au passage le troisième joueur, si je ne m'abuse, du Manchester City de Pep Guardiola à recevoir cette distinction, parce qu'il y avait Ruben Dias en 2021, il y avait Erling Haaland l'année dernière. Et par contre, celui qui n'a toujours pas reçu cette distinction, c'est le meilleur de tous, c'est Kevin De Bruyne.
Alors,
Dingue,
effectivement, un peu dur pour De Bruyne qui a été éloigné des terrains
hein? Voilà.
une partie de la saison, évidemment, donc ça se justifie. Tu parlais de ta surprise de ne pas voir Bukayo Saka plus haut dans ce classement. Est-ce
Oui.
que toi, tu aurais mis quelqu'un d'autre que Foden en première position? Est-ce que
Oh bah
Declan
oui,
Rice, par
je peux te
exemple?
dire pour qui j'ai voté. Hein. J'ai voté pour Martin Odegaard. Parce que pour tout ce qu'il incarne, et j'ai hésité entre Odegaard et Declan Rice. Parce que le succès de Manchester City est dû en grande partie, bien évidemment, aux performances de Rodri en milieu de terrain et pas à l'éclosion, mais à la confirmation de Phil Foden dans cette nouvelle responsabilité. Mais les joueurs qui ont vraiment illuminé ce championnat, c'est les joueurs de l'équipe qui a la meilleure attaque et la meilleure défense. À savoir Arsenal, qui est toujours en tête du classement. Et la différence, je pense, c'est qu'il y a des joueurs. On a l'impression, tu sais, cette équipe de Manchester City, il y a toujours une solution. À savoir que si c'est pas Phil Foden, ça sera De Bruyne. Si c'est pas De Bruyne, ça sera Haaland. Si c'est pas Haaland, ça sera Bernardo Silva. Et on peut continuer comme ça longtemps, voire Jérémy Doku par moment. Et que c'est un succès qui est basé sur le collectif. C'est certainement pas, d'ailleurs, au passage, une façon de le sous-estimer ou de lui donner une valeur inférieure, pas du tout. Mais quand on parle du footballeur de l'année, moi je pense tout de suite, quel est le footballeur dont le souvenir restera avec moi pour cette année 2023-2024? Et le souvenir pour moi, mis à part Declan Rice, qui a quand même été le catalyseur, c'est Martin Odegaard. Bon, j'ai écrit une chronique dithyrambique sur le bonhomme, mais j'avoue que tout simplement, il n'y a pas de joueur qui me donne davantage de plaisir que lui. Il n'y a pas davantage de joueur qui soit aussi complet que lui. Sa vision du jeu, sa rapidité dans la prise de décision, les prises de risque, les angles de passe, le finishing également qui est pas mal,
Tout à fait.
plus le fait que c'est un capitaine exemplaire et que c'est le bonhomme qui, de la première à la 90e minute, sera le premier à presser. Pour moi, il fait une saison inouïe, l'une des meilleures saisons qu'aient fait quelques joueurs d'Arsenal. Et là, à mon avis, il faudrait remonter peut-être Cesc Fabregas, 2007-2008. Qui avait été tout simplement sublime. Et puis avant ça, bah, c'est Titi Henry, c'est Patrick Vieira, c'est Robert Pires, c'est Dennis Bergkamp, le joueur auquel il me fait le plus penser. Mais si tu veux, moi, je mets toujours, c'est un peu comme dans le patinage artistique, ma note artistique est toujours plus importante que le reste. Les statistiques disent une chose, le ressenti de la beauté du jeu, le ressenti de l'intelligence du joueur est pour moi plus importante. Et j'ai parlé à pas mal de gens d'ailleurs, je pense qu'il y a une question peut-être générationnelle ici. Je crois que moi je suis beaucoup plus sensible à ça que certains de des collègues qui sont peut-être un petit peu plus jeunes. Et puis également, je ne te le cache pas, il y a quand même un a priori anglo-anglais, hein,
Ouais, bien
on
sûr.
va pas se le
Bien
cacher,
sûr.
qu'il n'y a pas beaucoup de membres étrangers de l'association des footballeurs de football anglaise, j'en suis un, il y en a quelques autres, mais la plupart sont des Anglais. Et du coup, bon, y a certainement une préférence. La préférence nationale, on va dire ça comme ça, joue un petit peu. On l'avait déjà senti dans le passé. Scott Parker avait été élu joueur footballeur de l'année, ce qui est une surprise extraordinaire. Il y en a eu d'autres comme ça. Et là, en l'occurrence, que ce soit Phil Foden, ce n'est pas un scandale du tout, hein. C'était un authentique candidat pour ça. Et puis aussi, dernière chose, je vais peut-être conclure là-dessus, c'est le fait que comme c'est un scrutin uninominal à un tour, donc c'est le joueur qui arrive en tête du classement qui reçoit ses points. Si c'était un scrutin à la Ballon d'Or dans lequel tu devais donner ton top 5 avec des points pour la position, donc avec les autres préférences, je suis certain que tu aurais vu Martin Ødegaard beaucoup plus haut dans le classement. J'en suis absolument certain. Et de la même façon que tu aurais retrouvé Bukayo Saka dans le top 6, plutôt que Ollie Watkins, bon, qui fait une bonne saison avec Aston Villa, mais pour moi, Dominic Solanke en fait une meilleure avec Bournemouth, avis personnel, mais qui n'est pas que personnel au passage. Et puis Cole Palmer, il y a également un côté anglo-anglais. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, beaucoup de pénaltys surtout. C'est vrai qu'il a eu une influence énorme sur ce Chelsea. C'est vrai qu'il est un petit peu comment dire, le soleil qui entre dans la pièce plutôt sombre qu'est
Chelsea.
le vestiaire des Blues. Mais malgré tout, quand je compare avec ce que fait Bukayo Saka, bon, à chaque match, c'est pas tout à fait la même dimension. Mais bon, tout ceci te dit, il y a quand même quatre Anglais dans le top 6. C'est assez intéressant. Et je pense que ça t'en dit également assez long. On aura l'occasion d'en reparler au cours des semaines qui viennent, je pense. Que l'Angleterre se prépare tout doucement
Exactement.
à une autre crise de surconfiance avant le début de l'Euro 2024.
C'est vrai qu'on aura l'occasion de reparler des attentes autour de cette très belle génération, certes sur le papier, mais des attentes qui sont très très importantes avant l'Euro. Mais ça, effectivement, on en reparlera dans les semaines à venir. Et Foden, Odegaard, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la course au titre, ces dernières journées en
Absolument.
Angleterre. Merci Philippe pour toutes ces analyses et on se retrouve lundi prochain dans Tour d'Europe. Bonne semaine.
Avec plaisir.
Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On a une belle semaine de football européenne à vivre, donc profitez bien de tous ces beaux moments et profitez aussi du reste de l'actualité sportive. Vous aurez le Giro à suivre sur les antennes d'Eurosport et puis le Masters 1000 de Rome pour ceux qui sont amateurs de balles jaunes. Voilà, il y a de quoi faire. Bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.